Alors, bonjour, bienvenue à cette première rencontre d'écrivains du CRILC, qui est le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Donc, c'est le CRILC de l'Université de Montréal qui organise ce cycle de rencontres d'écrivains. C'est la première fois que ce cycle de rencontres aura lieu au Port de Terre, donc nous en sommes très heureuses. Donc, cette année, le cycle est organisé autour d'un thème, soit celui du roman noir et du roman policier. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'Excellence Poulet, l'œuvre de Patrice Lessard, parue en 2015 chez Liotrope. Je vais présenter l'animateur de la soirée, donc Jean-François Thériault, qui a déposé à l'Université de Montréal un mémoire de maîtrise qui touche la réactualisation des théories de la lecture à l'ère du numérique. Il entreprend actuellement un doctorat, toujours à l'Université de Montréal, qui se penchera sur les différents rapports à la nostalgie dans une perspective intermédiaire. Il s'intéresse à la littérature québécoise contemporaine, à ses modes de réception et aux questions de culture populaire. Il est membre de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. À vous la parole.
Merci, bonsoir. Merci d'abord à Hélène et à Martine-Emmanuel pour l'invitation. C'est très gentil. D'inviter un simple mortel comme ça, présider un entretien comme ça, c'est très, très gentil de votre part. Donc, l'entretien s'intitule « Je ne dormirai pas si j'arrête, Montréal, ville de roman noir » avec M. Patrice Lessard ici. Donc, Patrice Lessard est né à Louisville en 1971, c'est ça, c'est bien ça, c'est...
71, mais des fois, je mets des
fausses dates. OK. Oh! Alors, je fais avec les informations que j'ai. Donc, professeur à Bois de Boulogne, ou c'est déjà Bois de Boulogne, c'est bien ça?
Exactement.
Voilà. Donc, il est également auteur de Je suis Sébastien Chevalier, qui a été publié en 2009 chez Rodrigol, Le Sermon aux poissons chez Liotrope en 2011, finaliste au prix Ringuet. Nina, la suite, chez Liotrope en 2012, finaliste au prix littéraire des collégiens, et plus récemment, L'enterrement de la sardine, toujours chez Liotrope, en 2014, qui a clos la trilogie qui se passe à Lisbonne. Oui, donc, voilà. Pour ce qui est d'Excellence Poulet, le roman qui va être le sujet de notre entretien ce soir, je vais le résumer brièvement, juste pour être sûr qu'on parle tous de la même affaire, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc, Excellence Poulet a été publié, comme Martine Emmanuel l'a dit, en 2015, chez Liotrope, dans ce qui était alors une toute nouvelle collection, collection noire, sans trop me tromper en disant ça. Donc, c'est un roman policier, et plus spécifiquement, un roman noir. Donc, on va revenir au cours de l'entretien sur cette distinction-là, qui est pour moi assez importante. Donc, Excellence Poulet a comme théâtre la ville de Montréal, plus particulièrement le quartier Rosemont, et met en scène le personnage de Gilles Papillon. Gilles Papillon, donc qui fait un retour à Montréal hein, après avoir passé quelques décennies à Lisbonne, au Portugal, et donc c'est un personnage qu'on avait déjà croisé dans les deux derniers tomes, si je ne me trompe pas, de la trilogie. On retrouve dans Excellence Poulet le cadavre d'un certain Luc Touchette, propriétaire de la garderie Les Frimousses au chocolat. Donc on retrouve dans son cadavre dans une belle ordure, dans la ruelle attenante à la garderie en question. Et donc Gilles, qui est un peu forcé à ce moment-là de revenir sur son passé hein, de détective privé, emploi qu'il avait précédemment occupé au Portugal. Donc, la ruelle dans laquelle on trouve le cadavre est partagée finalement avec la rôtisserie qui donne son nom au roman, Excellence Poulet, où notre ami Gilles tient ses habitudes. Et maintenant que Gilles travaille dans un des innombrables pawn shops de Montréal, il est un peu forcé lorsque Gros Bill, le propriétaire ex-moteur d'Excellence Poulet, lui demande de reprendre du service. Et donc, le problème, c'est que Gilles ne manque pas de pistes. Hein, à commencer par la rôtisserie qui est tenue par d'ex-truands à peu près repentis. Et le salon de massage érotique hein, qui partage son local avec la garderie. Et comme le dit un personnage juste à Montréal, tu peux voir ça des affaires de même, un salon de massage qui partage son local avec une garderie. Et il y a aussi le Miami Vice, hein, ce qu'on appelle dans le jargon un bar à poudre, qui est pas trop loin aussi, et qui recèle son lot de mystères également. Et donc, Gilles navigue un peu à travers le quartier Rosemont pour essayer d'éclairer le mystère autour de la mort de Luc Touchette. Surtout, ce qui est marquant dans Excellence Poulet, c'est la présence de ce narrateur-là qui est omniscient, qui est au-dessus de la mêlée, hein, qui en sait toujours plus que les personnages et qui donne au lecteur finalement les informations un peu au compte-gouttes, ce qui fait que le lecteur est souvent bien en avance sur sa propre enquête que l'enquêteur en question. Et également, le roman porte une grande attention à décrire le climat de Montréal dans un Québec qui est un peu grugé par la corruption politique omniprésente, où même l'octroi de permis de garderie est sujet à la corruption. Voilà, donc ceci c'est pour qu'on petit résumé assez prosaïque pour qu'on s'entende sur ce dont il va être question. Et donc j'aimerais lancer la discussion finalement en te demandant, on peut se tutoyer. La question que j'aurais envie, avec laquelle j'aurais envie de partir ça, finalement, c'est comment on passe, finalement, du roman blanc, hein, comme la précédente trilogie, au roman noir. Qu'est-ce qui change dans l'approche du texte? On sait que, entre autres, Nina, le deuxième tome de la trilogie, comportait déjà une dimension d'enquête, entre autres avec le personnage de Gilles. Donc, qu'est-ce qui change dans l'approche, finalement, du roman quand on se décide à écrire un roman noir à Montréal en 2015?
C'est une question un peu... J'aurais tendance à dire que j'ai pas vraiment réfléchi les choses de cette manière-là. En fait, depuis mon premier roman, depuis Le Sermon au Poisson, dans lequel même s'il n'y avait pas de... S'il n'y avait pas de détective force, finalement, dans lequel il n'y avait pas de détective, puis il n'y avait pas de d'enquête policière à vraiment parler, il y avait quand même une enquête dans la mesure où le personnage avait, dans le fond, perdu... un téléphone, en l'occurrence, qui le liait à son ancienne vie. Donc, c'était quelqu'un qui avait envie de se tirer de Montréal puis d'aller vivre ailleurs. C'est un motif qui revient souvent. Là c'est quelqu'un qui a été obligé de partir d'ailleurs pour revenir vivre ici. Merde! Puis, en tout cas, on pourra toujours y revenir là-dessus tout à l'heure. Mais bref, ce personnage-là cherchait son téléphone. Puis, ce téléphone-là, c'était ce qu'il rattachait à sa femme qui était à peu près en train de quitter, mais qu'il aimait encore, puis à sa vie passée, finalement. Puis en écrivant ce roman-là, je me suis comme un peu posé la question, justement, de cet intérêt-là, là, de ce motif-là, de l'enquête, de la recherche qui était apparu dans le roman, alors que c'était pas nécessairement un objectif à la base. Puis donc, je me suis mis à m'interroger sur justement ce qui faisait un peu la spécificité du roman noir. Là, en principe, le roman policier ou le roman énigme m'intéresse un peu moins. Mais je trouvais ça intéressant de voir que dans le fond, dans à peu près n'importe quel type d'histoire, en tant que lecteur, on est toujours un peu dans cette espèce de recherche-là. Puis même dans des romans qui n'ont absolument rien à voir avec avec le roman d'aventure ou avec... ce que je veux dire, par exemple, c'est je pense à un livre d'une infinie complexité comme Feu pâle de Nabokov, mettons, où on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe avec les personnages, puis on est aussi en train d'essayer de comprendre ce que l'auteur est en train de faire avec son histoire, puis avec nous en tant que lecteur. Puis cette recherche-là m'intéressait. Donc, je constatais que dans ce que je faisais dans Le Sermon au Poisson, ben, il y avait ça. C'est-à-dire que, sans entrer dans les détails, j'imagine qu'en tant que lecteur, on se demande, en lisant ce livre-là, ben OK, comment c'est construit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui donne sa logique à cette histoire-là. Puis donc, en poussant un peu plus loin cette réflexion-là, j'en suis comme un peu venu à une conclusion qui est peut-être complètement erronée, mais qui était féconde sur le plan de la création, que dans le fond, l'enquête, c'était un peu la quintessence de l'écriture, dans le fond. Puis qu'il y avait quelque chose à fouiller de ce côté-là. Et puis, j'avais jamais été un amateur j'avais jamais été un réel amateur de romans noirs ou policiers ou peu importe. Moi, dans ma tête, je lisais un roman, puis bon, je m'en foutais que ce soit un roman policier ou un roman noir, je voulais que ce soit un bon roman, puis c'est tout. Mais là, je me suis mis à m'intéresser un petit peu plus, à essayer de décortiquer des romans, des romans de Simenon notamment, puis pas les romans de Maigret, mais des romans de Simenon qui étaient un peu... qui était un peu plus libre, qui n'était pas des romans de genre à proprement parler. Et puis c'est ce qui m'a amené finalement à imaginer des histoires un peu plus, je dirais plutôt criminelles que policières.
Okay.
Et puis bon, après, ben évidemment, il y a une question de circonstances, c'est-à-dire que, ben comme tu le disais tout à l'heure, il y avait cette nouvelle collection-là qui démarrait. J'ai été très touché que mes éditrices m'invitent à faire partie de cette entreprise-là. Plus touché encore quand après avoir lu le... En fait, qu'on décide en plus d'en faire un des premiers titres. Mais disons qu'au départ, il y avait cette contrainte-là. Il y avait l'idée qu'il fallait que ce soit un roman noir, puis il y avait l'idée qu'il fallait que ça se passe au Québec. Donc évidemment, il y a tout un paquet de caractéristiques de ce livre-là qui découlent de ça. Par ailleurs, je m'étais comme un peu dit que... Il faudrait peut-être que je m'exile de Lisbonne aussi, parce que là, à un moment donné, trois, c'était peut-être assez. Bon, et puis après ben évidemment, blanc, noir, c'est-à-dire que... Comment dire? On se dit pas... Je me suis jamais dit, ah OK, là, j'ai jamais écrit du roman noir, maintenant je vais écrire du roman noir, comment je vais faire? Tu sais, les choses se passent comme ça. Évidemment, on tombe dans on se pose des questions qui sont propres au genre. On veut, tu sais, bon, j'aurais très bien pu écrire un roman noir dans lequel il n'y avait pas de mort. J'imagine que ça aurait pu arriver. Puis ce qui m'intéresse dans le roman noir, c'est certainement pas tout ce qui est codé, tout ce qui est prévu d'avance. Donc, évidemment, le travail créatif derrière la construction de ce roman soi-disant noir-là est le même pour moi que lorsque que j'écris lorsque j'écrivais d'autres types de romans.
Oui, c'est ça. Dans le fond, du littéraire a découlé le noir et non ou le policier ou l'enquête plus que l'inverse. C'est-à-dire, puis c'est ça, c'est que la tradition française, entre autres Gallimard, a vraiment tenu, avec la création de la série noire, à séparer, tu sais, à faire des romanciers blancs, des romanciers noirs. Mais je pense que ce que tu dis, c'est beaucoup plus proche de ce que les Américains faisaient dans les années 30. C'est-à-dire, Chandler n'a jamais dit « je fais du roman policier ». Son but, c'était de faire du bon roman.
Ouais,
Puis ça donnait qu'il y avait, ben, de l'argent à faire avec le roman noir à cette époque-là.
C'est vraiment une tonne de
cartes. Ouais, ça c'est... Ouais, ça je m'en doute. Non, en tout cas, ouais. Non, mais... oui, donc... mais aussi qu'il y avait une vraie... un vrai potentiel de dire quelque chose avec ce roman-là. Puis c'est un peu aussi là où j'aimerais amener la discussion, c'est-à-dire que pour moi, ce qui fait la spécificité du roman noir, c'est son point de vue sur l'enquête, mais aussi sur la société puis sur la ville qui la représente. On reviendra sur l'importance de Montréal dans le roman, mais là où le roman policier traditionnel, le roman énigme, le Sherlock Holmes, est très circulaire dans sa représentation du monde, c'est-à-dire que c'est le monde est une roue qui tourne avec des institutions politiques, économiques, sociales, culturelles qui sont en charge de faire rouler la patente-là, finalement. Quand quelque chose survient, un événement problématique survient, un mort, un enlèvement, peu importe. Mais le travail du policier à ce moment-là ou de l'enquêteur, c'est d'arrêter l'élément déviant puis de faire en sorte que la roue recommence à tourner. Tandis que le roman noir, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, plutôt qu'être une espèce de représentation cyclique du monde, c'est un monde plat. C'est-à-dire que c'est un monde plat où tout est déjà pourri, tout est déjà corrompu, tout est déjà en ruine. Puis la cohésion sociale, finalement, qui préside dans le roman policier, le roman noir l'attaque. Il va dire finalement que c'est la cohésion sociale, c'est un écran de fumée qui sert à ce que le pouvoir, hein, reste toujours entre les mêmes mains.
C'est-à-dire celle du Parti libéral.
Oui, c'est-à-dire celle du Parti libéral. En tout cas, dans le cas d'Excellence Poulet, le Parti libéral en prend pour son rhume. Ça, oui, on y reviendra très certainement. Mais donc, ce qui fait la particularité du roman noir, en tout cas dans ses origines, dans les années 20, c'est vraiment cet engagement-là. Puis je me demandais, est-ce que dans ton cas, le roman noir, est-ce que cette tradition-là a influencé finalement le propos du texte? Est-ce que finalement, justement, est-ce que ça devenait pas un peu le tremplin pour justement tenir ce genre de discours-là politique qui sont très très présents dans Excellence Poulet?
Je pense que ça s'est plutôt fait en sens inverse. Hein.
Okay.
Je pense que c'est plutôt partie de c'est plutôt parti d'un sujet, puis évidemment, le sujet faisait en sorte Ben là, on tombait dans... C'est-à-dire, j'ai pas choisi la garderie parce que j'avais envie de tenir un discours sur la corruption, sur Tony Tomasi et ainsi de suite. C'est plutôt parce que le sujet qui m'était un peu comme tombé du ciel allait dans ce sens-là. C'est-à-dire que... Je pense que je vais en parler.
Vas-y.
Ouais. Oh, ça... J'ai un bon ami qui...
Ça sort pas ça sort pas le bon.
Oh, ça peut sortir. C'est très bien que ça sorte. Mais... j'ai un très bon ami qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était journaliste dans les hebdos de quartier. Il était journaliste à l'hebdo de Rosemont, notamment. Et puis, à un moment donné, ben, c'est ça, quand j'étais un peu en recherche de sujet, j'ai eu une petite rencontre avec lui. On est allé prendre un café, je sais pas. Puis, il me racontait des histoires un peu criminelles. Moi, j'avais choisi. Donc, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, le projet d'Héliotrope, c'était que ça se passe au Québec. Et puis, bon, on m'avait un peu demandé de quel lieu tu as envie de parler. Puis moi, j'avais dit, ben, je pense que je vais parler de mon quartier. Là, j'habite la petite patrie, Rosemont, la petite patrie. Je pense que je vais parler de ce coin-là. Et puis, donc, lui, il m'a filé un certain nombre de comment dire, de cas sur lesquels il avait travaillé. Et le cas qui a retenu mon attention, c'est celui d'un salon de massage érotique qui s'appelle, là on est en 2011, okay. Qui s'appelle le Spa Vénus, qui existe d'ailleurs encore, dont j'ai changé le nom en Spa Aphrodite avec une faute d'orthographe dedans. Et puis, c'est un immeuble avec deux... C'est un immeuble à logement avec deux commerces au rez-de-chaussée, deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Et dans le local jouxtant le salon de massage érotique, le local était vide. Et un type qui avait réussi à obtenir un permis de garderie pour donc ouvrir une garderie, évidemment, dans ce local-là. Et c'est vraiment fantastique parce que... en tout cas, moi, je trouvais ça très drôle. Je me disais, bon, ben OK... ça va être le directeur de la garderie, puis le directeur de la garderie, je vais en faire une espèce de psy sexuel, il va s'appeler Touchette. Ça fait un peu pédo comme nom, je sais pas. Je m'excuse si vous appelez, mais tu sais, Touchette. Je m'excuse, je veux pas insulter personne. Là. Bon, en tout cas, bon, un autre cas où j'aurais dû retourner ma langue dans le champ. Mais je suis pas bon là-dedans.
Il y a une coupe qui va aller ouais, passive.
C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. Là. On appelle l'essor. Mais bref, tout ça pour dire que jusqu'à tout récemment, le local était vide. Puis il y avait encore la vieille pancarte. C'était quelque chose du genre l'église des aigles de Dieu, quelque chose comme ça. Moi, je trouvais ça complètement hilarant. Je me disais, ça s'invente pas. Ben là, il y a deux semaines, il y a un de mes amis qui est passé devant, qui a pris une photo. Puis dans le local, il y a une garderie qui s'appelle les Bambichous. Moi, je me trouvais drôle avec Frimousse au chocolat, mais sérieux, c'est poche. Le Bambichou, si j'y avais pensé, c'était comme, tu sais, Bambi. En plus, il y a un roman livré à vie qui s'appelle Bambi Bar avec des histoires de pédophiles. C'était parfait. Mais bref, tout ça, je pense que cette anecdote-là est quand même... est quand même symbolique, justement, représentative de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'invente une histoire, bon, donc, qui était basée, évidemment, sur des faits réels, tu sais, de... Puis, je m'imagine... Je peux pas croire que... Tu sais, les parents qui envoient leurs enfants à cette garderie-là doivent être vraiment mal pris. Puis d'ailleurs, c'est un truc que je dis dans le truc, il faut vraiment être mal pris pour envoyer des enfants dans une garderie. T'sais, tu passes en avant du Spa Vénus, puis ça sent le chlore dans la rue quand les portes sont ouvertes. Puis donc, j'ai un peu oublié tout ce que tu disais à propos de ta question, mais est-ce que dans le fond, le roman était l'occasion de tenir un discours engagé, un discours politique?
Considérant cet héritage.
Ben, tu sais, t'as juste à regarder ça, puis tu te dis, ben, tout est là, j'ai pas besoin de rien inventer, j'ai même pas l'impression d'être engagé, j'ai juste à relever ce qui se passe. Bon, après ça, évidemment, on fait des policiers.
Oui, c'est ça. Policiers quand même.
Plus, des trucs comme ça. Ça, c'est pour le plaisir. Mais, disons que toute la pourriture est déjà là. Puis on a juste à. On a juste à tirer un petit peu sur quelques ficelles. Puis ça. Tout se découle. C'est merveilleux.
Ah ouais.
Okay. Donc, c'est fait de même. L'obsolescence calculée.
Ouais, ben on pourrait continuer peut-être un peu justement dans cette question du roman noir-là. Parce que le roman noir a une histoire quand même assez particulière, c'est-à-dire que il est apparu bon, au milieu des années 20, après, bon, à peu près coïncide à peu près avec la crise économique. Et puis, très très rapidement, c'est un roman qui a été rapatrié par Hollywood. Hein? Donc, Hollywood en a produit des films, puis en a fait un genre, un des premiers vrais genres, avec le western évidemment, là, mais un des premiers vrais genres populaires avec ses clichés, ben, avec ses tropes, ses thématiques qui sont devenues, par la force des choses, des clichés. T'sais. L'enquêteur, le Private Eye de roman noir qui est comme un peu cristallisé autour de Humphrey Bogart, là, avec son fedora, sa cigarette, son verre de whisky, son imperméable, puis sa façon de son espèce d'oralité. Très particulière. Puis donc, moi, la question qui me venait, même avant, c'est une question que je me pose souvent, c'est-à-dire comment on négocie avec cet héritage-là, parce que c'est un héritage qui est difficile, étant donné que tout le monde le connaît, ça devient des lieux communs très, très, très rapidement. Fait que, est-ce que c'est une question qu'on se pose quand on écrit un roman noir aujourd'hui?
Je pense que oui, jusqu'à un certain point. Moi, je constate là, dans mes lectures, quand je lis des romans plus récents, romans noirs plus récents, que déjà, on n'est plus dans le détective privé, on est plutôt dans le policier. Là, on est passé du côté de la police officielle, évidemment, puisque le quand tu es détective privé aujourd'hui, tu essaies de prouver qu'une femme trompe, des couples se trompent. Je dis, ouais, c'est ça, tu passes ton temps sur Facebook. C'est sûr que les enquêtes pour meurtre, puisque souvent ça part de là dans une fascination pour ça dans le roman noir, ben c'est sûr que c'est plus trop les détectives privés qui jouent là-dedans. Bon, maintenant, je suis un peu paresseux, puis j'avais vraiment pas envie non plus de tomber dans des histoires à la Martin Michaud où là vraiment on tombe dans une espèce de bon, on peut pas parler de réalisme en ce qui concerne ce genre de roman-là, mais disons qu'on voit qu'il y a des recherches vraiment intensives sur comme tu sais les méthodes de travail de comment travaille la police, les méthodes de travail de la police. Tout ça. Ah ouais. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéresse pas non plus, c'est les histoires de meurtriers en série. Moi, j'aurais vraiment peur là, d'aller m'établir à Malmö. Là, ça, tu vois, il y en a 17 par année des meurtres en série. Là, les meurtriers en série, même. Donc, ça m'intéressait pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéressait, puis d'ailleurs, moi, j'ai toujours été plus intéressé par... tu parlais de Dashiell Hammett tout à l'heure. C'est ça, chez Dashiell Hammett, on n'a pas affaire à des super criminels. Hein, on a affaire à des crimes sociaux, dans le fond. Bon. J'aime bien Léo Mallet parce qu'il se prend pas trop au sérieux. J'aime beaucoup Jean-Patrick Manchette parce qu'il est justement sorti de ces ornières-là, là, du point de vue du détective privé, du point de vue de la police. Fait que moi, c'était plutôt ce genre de criminel un peu minable là, qui m'intéressait, de criminel incompétent. Puis j'irais jusqu'à dire de détective incompétent. C'est-à-dire que Gilles, il n'est pas officiellement détective privé. Il se fait toujours remettre sur le nez. Il se prépare mal. Ça l'intéresse. Il est curieux. Ouais. Fait qu'il cherche. Mais il n'est pas vraiment plus compétent que je le serais si c'était tout à l'heure pour ça. Et donc, c'est sûr que les clichés. Bon, à cette heure, Gilles, il boit trop, mais. Je pense que l'inspiration première de Gilles quand il boit trop, c'est pas le roman noir, c'est plutôt l'auteur du roman dans lequel il se trouve. Puis pour le reste, ben c'est sûr qu'on se dit oh, c'est ça, j'ai pas envie d'en faire un super-héros, j'ai pas envie d'en faire un séducteur, j'ai pas envie qu'il y ait de femme fatale, ça, de trucs comme ça. Puis là encore, pour en revenir à ta première question à propos du roman blanc et tout ça, ben, tu sais, moi, il me semble que l'objectif premier d'un artiste, c'est tout de même un minimum d'originalité. En tout cas, moi, je serais pas capable d'écrire sans me dire qu'il faut, tu sais, que je dois rechercher à réinventer quelque chose, à arriver avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Alors évidemment, le roman, tout l'aspect codifié du roman,
ouais.
de tous les romans de genre, mais même, je dirais, de certains romans qui se veulent blanc-blanc-blanc. J'aime pas ça beaucoup, ce qui est blanc-blanc-blanc, mais dans lesquels on a toujours un peu le même genre d'intrigue, toujours des histoires un peu amoureuses, des histoires un peu je sais pas, initiatiques, bon, peu importe. Ben, tu sais, au fond, le sujet, c'est pas vraiment important. Le sujet, tu sais, c'est tout ce qui se passe dans l'écriture, c'est tout ce qui se passe dans la construction de l'intrigue, dans la structure du roman. Puis bon, là, après, est-ce que c'est une enquête policière, criminelle, je sais pas quoi, ou est-ce que c'est un gars perdu à Lisbonne qui cherche son téléphone? Pour moi, ça procède du même travail artistique, là, si j'ose dire. Ouais.
J'ai goût de rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est-à-dire, tu sais, les criminels, puis un enquêteur assez incompétent, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde dans Excellence Poulet hérite de son rôle par accident. C'est-à-dire que les criminels, en tout cas ceux qui nous sont présentés, les anciens motards ou quoi que ce soit, sont pas, contrairement à une certaine tradition du roman policier plus classique, fondamentalement mauvais. Ils deviennent motards un peu parce que ils connaissent tel gars, puis ils veulent faire une part de cash, ou ils tombent dans tel endroit au mauvais moment. Gilles, on a l'impression oui, on nous le présente comme un détective privé. J'imagine que j'ai malheureusement pas lu Nina, j'avoue, mon incompétence.
C'est pas drôle.
Non, mais
dans Nina et l'enterrement, effectivement, il était détective privé, mais il était aussi détective privé. C'est un type qui est arrivé là-bas, puis à un moment donné, un peu par la force des choses, s'était trouvé une job comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. C'est jamais, tu sens jamais que ces personnages-là sont des qui servent, en tout cas, un pilier du roman. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des repères narratifs, comme pourrait l'être le tueur en série du roman policier, parce qu'il faut qu'il soit tueur, parce qu'il est tueur, puis il faut qu'il y ait un motif qu'éventuellement puisse être expliqué à Pinel. On ne sent jamais que dans Excellence Poulet, c'est ça, il n'y a pas d'espèce d'essentialisme de ces personnages-là. Ils sont là parce qu'ils fréquentent le même quartier, puis ça donne que Gilles aime le poulet, puis ça donne que y a une garderie là, puis l'autre elle a besoin de la masseuse, j'oublie son nom, celle qui travaille chez Aphrodite là, qui...
ouais, c'est Karen.
Karen, c'est ça.
Britannie,
oui, le nom de. Mais c'est ça, donc j'ai vraiment l'impression que, je sais pas si c'est une question qui s'était posée dans ton travail, mais finalement que tout le monde est un peu là par. Pas pour les besoins de l'enquête, pas pour les besoins du roman, mais tout le monde est un peu là parce qu'il est.
Ben, disons que tout le monde est un peu là parce qu'il y a un contexte là, physique, là,
ouais.
À savoir évidemment que tout ça se trouve à peu près sur le même coin de rue.
Mm-hmm.
Donc, étant donné que 3 commerces sur 4 sont tenus par des criminels ou d'ex-criminels, comme ça arrive souvent dans mm-hmm. ce genre de situation-là. Ben, ces personnages-là, ils sont là par la force des choses. C'est-à-dire que, bon, maintenant, à la rôtisserie en tant que telle, où là, ce serait plutôt des ex-criminels repentis, puis le propriétaire fait un peu œuvre charitable en engageant des gars sortis de prison qui veulent se sortir du crime, mais qui n'arrivent pas à se trouver du travail. Ben là, il y a aussi un... Ça va un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure avec le fait que les criminels en série, ça m'intéresse pas beaucoup.
Mm.
C'est-à-dire que je pense que la vaste majorité des criminels sont pas nés avec le crime dans le cœur, puis ils y arrivent un peu par la force des choses. Souvent, évidemment, c'est à cause de la pauvreté. Il y avait un type, là, je sais pas si vous suivez le football de la NFL, mais d'ailleurs, c'est actuellement le match entre les Redskins et les Steelers. Il y a eu toute une histoire un peu débile là, depuis une couple de semaines parce qu'un joueur, un quart arrière des 49ers de San Francisco qui s'appelle Colin Kaepernick, que j'avais toujours appelé Kaeper Douchebag avant parce qu'il avait un peu l'air douchebag, mais là il a décidé qu'il allait mettre son genou par terre durant l'hymne national pour contester le sort qu'on contester le fait que les policiers tirent des Afro-Américains impunément tous les jours aux États-Unis. Puis un ancien joueur de football qui s'appelle Shannon Shepherd qui disait dans une émission de télé on parle de black on black crimes à Chicago, des noirs qui se tirent dessus entre eux. Mais il dit quand t'enlèves tout espoir à quelqu'un, ben, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Puis ces crimes-là, ces meurtres-là, ils ont lieu à cause de la proximité. C'est-à-dire que tu tues des gens qui sont proches de toi. Donc, évidemment, si t'es blanc, tu vas tuer des blancs si t'habites dans un quartier blanc. Puis si t'es noir, tu vas tuer des noirs parce que t'habites dans un quartier noir. Bon, en tout cas. Et puis, je sais pas, moi, ça me semble une vision beaucoup plus intéressante, encore une fois, que l'espèce de... Parce que vous savez, dans le fond, le meurtrier en série, puis le policier qui va arrêter le meurtrier en série, c'est un peu comme Batman, hein, puis le Joker, là. Puis ben moi, j'ai arrêté de m'intéresser à ça là, quand les nouveaux Batman ont commencé à sortir. Moi, j'aimais la vieille série là, avec les collants. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Pour moi, c'est un peu bébé. Je sais pas, j'aime pas. Ça m'intéresse pas. T'sais. C'est comme la science-fiction. C'est comme bon, en tout cas, il y a des trucs extraordinaires qui se font là-dedans aussi. Hein. C'est pas la question. Ouais, je sais que j'arrête pas.
C'est fan de comic book.
Puis là, j'ai sacré en plus. En tout cas, bref, ça arrivera plus jamais. On je le promets. Mais ouais, c'est ça. Mais bref, donc. Je pense que le mon désir de... En fait, encore une fois, c'est pas nécessairement un désir, puis je sais pas jusqu'à quel point c'était planifié, mais le fait que ça soit devenu ça, je pense que ça tient d'une espèce de parti pris que j'ai en moi, dans mon cœur, depuis toujours, de plutôt m'intéresser aux victimes, de plutôt m'intéresser aux petites gens.
Oui, mais c'est encore la question du point de vue. C'est vraiment ça. C'est, ouais. c'est prendre le problème de la criminalité par le bas, tu sais. Mm-hmm.
De manière anarchiste. Là,
ouais, oui, carrément. Ben, poursuivons un peu là-dedans. J'aurais envie de poser une question sur l'humour dans le roman qui prend une grande place quand même dans ton travail, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on rit en lisant Excellence Poulet.
C'était un peu ça le but.
Oui, mais dis, le rire côtoie les carcasses de poulet, les morts d'un carcasse de poulet, le Parti libéral, la corruption et compagnie. Donc, de quelle façon on rit dans l'excellence poulet? Est-ce qu'on rit jaune? Est-ce qu'on rit...
Ben, j'espère qu'on rit un peu jaune, là, mais ouais, je sais pas quoi te répondre, en fait. J'ai l'impression que c'est une posture un peu naturelle, là, qui, encore une fois, est beaucoup plus... instinctive que planifié que okay. Ben tu sais je sais pas déjà moi j'étais tu sais comment dire
mais ça dit comment quelle importance ça pas nécessairement quelle importance mais comment tu conjugues tu sais je veux dire déjà la couverture est assez tu sais je veux dire c'est du noir avec une collection qui s'appelle Noir, puis t'as une cuisse de poulet dessus. Il y a quelque chose de toujours de qui a tellement l'air bonne d'ailleurs, il faut
en
parler après.
Sérieux, t'as regardé là comme il faut.
Ah non!
À l'HS, là.
Mais moi, je suis pas contre le poulet sèche non plus.
D'ailleurs, le photographe, là, donc le graphiste de Yotop qui s'appelle Antoine Fortin, qui a fait la couverture, il m'a dit, je l'ai laissé un peu chassé sur la table. Je voulais qu'il ait l'air un peu passé date.
Mais la sauce a l'air un peu gluante.
Oui, elle a l'air figée un peu.
Ouais.
Ouais. Elle semble très grasse.
Ça, c'est des préférences. On peut pas parler longtemps de poulet, mais...
C'est une véritable obsession au Québec.
Ah oui, ben... oui, bon, mais essayons de... Je vais te retirer un peu vers mes papiers. Mais c'est ça, mais c'est pour moi, il y a pas nécessairement un contraste, mais en tout cas un jeu sur les nuances. C'est quelque chose d'assez grave, comme un meurtre dans une garderie, tu sais. Puis... l'espèce de narrateur très caustique, mais en même temps, tu sais, très, qui a un regard assez détaché là-dessus. C'est-à-dire, il n'y a jamais de drame là-dedans. Il y a des morts, mais il n'y a jamais de drame.
Ben, moi je pense, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis complètement cynique ou je crois pas. Mais moi, quand j'entends une histoire de gars qui a réussi à avoir un permis de garderie pour ouvrir une garderie à côté d'un salon de massage érotique, il y a une partie de moi qui dit « Ah ben tabarnak », puis une autre partie de moi qui dit « Ah ben tabarnak
!» C'est ça.
Ça va un peu les deux ensemble, me semble-t-il. Et puis, tu sais, là après ça, quand tu tombes dans la corruption, tu sais, c'est répugnant la corruption, ça m'enfurie, puis tout ça. Mais tu sais, t'es-tu vraiment capable de penser à Tony Tamassi sans rire? Bon, fait que c'est ça. Il y a toujours un peu de ça. Bon, après ça, je pense que je me vois vraiment pas écrire un roman noir. Je sais pas. Encore une fois, c'est un instinct. J'ai fait usage de l'humour parce que je pense que c'est une espèce de manière que j'ai d'aborder le récit, d'aborder la vie en général. Donc, je suis toujours à la fois aussi en colère qu'en train de chercher une joke plate à faire à propos de ma colère. Fait que je pense que c'était un peu ça. Encore une fois, tu sais, dans l'écriture, il y a toute une part de là, OK, excusez-moi, je pense... ce que je suis en train d'écrire actuellement, j'essaye de vraiment changer tout un paquet de choses là, dans la manière d'aborder le récit. Notamment, un point commun entre Excellence Poulet et les romans précédents, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui s'enchaînent. Ce qui fait progresser le récit, c'est vraiment des éléments de cause à effet qui font progresser l'action. J'avais moins envie de ça cette fois-ci. J'avais envie de faire quelque chose qui était peut-être plus dans les liens entre les personnages. C'est pas important pour notre discussion, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ce changement-là de point de vue sur l'enchaînement des événements, sur les relations entre les personnages, à la base, c'est réfléchi, c'est pensé, il y a un projet, puis on dit « OK, je me dis « OK, je vais faire ça comme ça ». Maintenant, il y a tout un paquet d'autres affaires qui sont là, puis qui appartiennent... à une espèce d'instinct qu'on a. Les gens souvent ils me disent j'ose espérer qu'ils considèrent pas ça comme un défaut, mais qu'ils me disent quand ils lisent mes livres, ils ont l'impression qu'ils m'entendent raconter l'histoire, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma voix quand même, dans ma manière de dire, de raconter les choses qui se retrouve dans mon écriture. Puis mon instinct, c'est que ça, c'est à cultiver en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une espèce de preuve d'authenticité, si je puis dire. Que dans ma voix, travailler dans ma voix fausse et travailler de l'écriture, il y a quelque chose qui ressemble à ma voix, puis à ce que, donc j'imagine, je suis vraiment... Fait que c'est toujours un peu le il y a toujours un va-et-vient entre, dans le fond, le travail puis l'instinct qui se mélange, puis bien évidemment, te dire précisément de quelle manière tout ça se construit puis interagit, je suis pas capable.
Non, c'est pas nécessaire. Mais...
Non, mais je te remercie.
Un plan détaillé. Ouais. Tantôt, on parlait du roman noir, puis j'ai dit que c'est ça, contrairement au roman policier traditionnel, le roman noir était un truc beaucoup plus plat, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de circularité, il n'y a pas le schéma narratif, si tu veux, qu'on enseigne aux étudiants. Mais pourtant, si je reviens un peu là, sur ce que j'ai dit, ton roman a quelque chose de très circulaire, par contre. C'est-à-dire que le narrateur donne accès au lecteur à une même scène, entre autres la scène, en tout cas, entre minuit et 2h du matin, le soir du meurtre, du point de vue de différents personnages. Alors, on revient comme ça, cycliquement, puis à chaque fois, on en apprend un peu plus, jusqu'à ce qu'on apprenne finalement l'identité du tueur avant la fin du roman, peut-être 60, 70 pages avant la fin du roman. Et c'est quand même ça déboussole complètement les repères du lecteur de romans policiers, en tout cas, ou qui s'attend à découvrir l'identité du meurtrier au dernier chapitre, puis que tout ça se finisse bien, puis qu'on rabatte les livres jusqu'au prochain. Comment c'est venu, finalement, cette idée-là de court-circuiter la structure, si tu veux, attendue?
Quand j'ai donné le manuscrit à l'éditrice, à ma chère Geneviève qui est là, qui l'a lu, puis qui m'a dit, qui m'a fait un certain nombre de commentaires, elle me parlait de en fait, à ce moment-là, la dernière scène, pas la dernière scène, mais l'avant-dernière scène du roman était celle où on apprenait l'identité du meurtrier. Okay. Puis, Geneviève m'a fait un tas de commentaires très justes, notamment à propos du personnage de Paquette, le détective, le sergent détective, qui manquait peut-être un peu de profondeur, qu'il faudrait peut-être un peu développer. Et en fait, la structure du roman, dans le fond, c'est, si je me souviens bien, c'est 12 chapitres. Puis il y a 6 chapitres qui présentent le point de vue de différents personnages. Donc, il y a Mélissa, il y a Minou, Zoreille, Paquette. Bon, il y en a plusieurs comme ça. Et puis, donc ça, c'est tous les chapitres impairs, dans le fond. Puis tous les chapitres pairs sont focalisés sur Gilles qui procède à son enquête. Puis, je me suis dit, donc, que ça serait bien de faire un chapitre. Donc, Paquette, il n'y avait pas de chapitre pour lui. Puis, j'ai commencé à écrire le chapitre en question sans trop savoir exactement où j'allais le mettre dans le roman. Puis, à un moment donné, il m'est apparu justement que ce serait beaucoup plus intéressant de lire son histoire à lui un coup qu'on a appris l'identité du meurtrier. Ça m'est venu comme ça. Moi, j'étais super content quand j'ai fait cette trouvaille-là. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça original. Puis là, encore une fois, ça va dans le sens de cette espèce de désir-là. Comme je disais tout à l'heure, moi, les codes, ça m'intéresse. Suivre des codes, ça m'intéresse pas beaucoup. Les comprendre, d'accord, mais les suivre, un peu moins. Et puis moi, une des choses qui m'a maintenu loin du roman noir, du roman policier, de tout ça pendant de très nombreuses années, c'est la fameuse et fâcheuse scène de la révélation. Ça m'énerve, là. Puis tu sais, quand je lis des romans encore aujourd'hui, puis que l'auteur a cédé à ça, moi, c'est rédhibitoire. Donc, je déteste ça, puis j'avais évidemment pas envie d'aller là-dedans. Fait que c'est pour ça aussi que je savais que la révélation du meurtrier se ferait par le meurtrier lui-même, c'est-à-dire en le voyant agir et tout ça, et non pas en entendant le détective nous expliquer comment il avait donc fait pour trouver. D'ailleurs, il est même pas sûr d'avoir trouvé. Puis ça, c'était un autre truc qui m'intéressait. Donc, toujours dans cette idée-là de l'incompétence d'un peu tout le monde, de l'incompétence des criminels et de ceux qui les cherchent. Puis un peu dans le sens de ce que tu disais tantôt à propos de ce monde plat, ben ça c'est très très noir, c'est-à-dire que tout ça ne règle absolument rien, que l'espèce de comment dire, le crime n'est pas une anomalie du système, au contraire, le crime est pratiquement valorisé par le système, parce qu'évidemment c'est le système là, politique, judiciaire, qui a permis dans le fond la mort du propriétaire de la garderie.
Ouais, mais c'est ça. Puis en plus, la fin, le roman se clôt. Nous, on sait qui a fait, comme lecteur, on sait qui a fait le meurtre. Gilles en a une très bonne idée, mais personne ne l'écoute. Et le roman se clôt avec une arrêt de l'arrestation d'un faux coupable, finalement, qui revient encore une fois à ce. Spoiler alert.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, désolé.
C'est pas grave, on s'en sac de tout
ça. Fait que toi, t'as deux strikes, moi j'en ai un. Oui, donc c'est ça, mais il reste quand même qu'on arrête le mauvais gars. Puis que le roman se finit, finalement, encore en tension. Il n'y a pas de résolution, il n'y a rien qui se clôt, puis il n'y a rien que tu sens que, ok, bon, encore une fois, c'est fini, c'est fermé, on passe à autre chose.
C'est parce que c'est pas fini.
Et, ouh, ouais,
rien de fini. Non, je veux dire, non, c'est pas bien. Je dirais pas tout de suite, en tout cas pas tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de fini, effectivement, puis c'est cette vision-là qu'on termine quelque chose, elle me semble un peu aberrante. Mais venu quelque chose quand tu parlais de... Oui, là aussi, tu sais, dans le... En fait, un truc... parce que c'est quelque chose d'un peu particulier, là, de voir, dans le fond, quand on écrit du roman soi-disant blanc, là. J'ai écrit du roman métis, là.
Puis, oui, bon, ouais, c'est ça. On peut s'entendre qu'il n'y a pas ça. Je prenais juste l'exemple. Oh,
ouais, ben oui, j'entends. Mais bref, qu'on écrit du roman blanc... Puis là, il y a un certain type de couverture médiatique qui est faite de ça. Puis ben avec la publication de romans noirs, là, il y a d'autres types de couvertures médiatiques qui apparaissent. Puis souvent, les critiques de romans noirs, ben justement, ils sont dans le code beaucoup plus que moi.
Bonne lecture d'été.
Non, mais OK, mais ça... Fair enough, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais par exemple, un des reproches qui m'a été fait, c'est justement que le crime, je me rappelle plus comment ça avait été formulé, mais que le meurtrier n'était pas arrêté ou que le crime n'était pas résolu ou quelque chose comme ça. Puis, pour moi, c'est ça, justice n'a pas été rendue. Puis pour moi je trouve ça au contraire. Encore une fois, ma difficulté à me conformer à ce qu'on me demande de faire, ben ça me semblait plus intéressant comme ça. Ça me semblait plus singulier, disons, d'encore tomber dans le... Puis ben si jamais, à un moment donné, j'avais envie d'écrire une suite, ce qui n'est pas impossible, ben là, on est dans un... Je sais pas quoi, le monde est bien établi. On a des personnages qui... On a des coupables en prison puis des meurtriers en liberté. Je pense que c'est assez conforme à ce qu'on... J'imagine, en tout
cas. J'aimerais ça qu'on parle de Montréal, parce que c'est dans le titre de la présentation. J'aimerais ça qu'on parle de Montréal parce que Montréal prend vraiment une grande place dans ton écriture, en tout cas dans ce roman-là, très certainement. Puis, la ville, c'est une vraie tradition du roman noir, finalement, où on a l'impression que la ville devient presque un personnage. C'est-à-dire qu'elle la ville représente quelque chose qui souvent va rentrer en conflit ou pas avec les croyances et les valeurs tout particulières de l'enquêteur, qui tente donc à ce moment-là de un peu racheter sa ville. Bon, les exemples manquent pas, là. On a parlé d'Ahmet. Ahmet a beaucoup parlé des petits bleds industriels de la côte ouest qui sont comme ravagés par l'industrie privée, puis qui sont achetés par des millionnaires, puis abandonnés à leur sort après, quand il n'y a plus rien à creuser. Chester Himes a parlé du racisme à Harlem dans les années 50. Chandler, Hollywood à Los Angeles. Bon, on les nommera pas toutes, là, mais... et j'en reviens à cette réflexion-là du personnage de Mélissa, l'employée de garderie qui trouve le corps de Luc, qui dit « Y a-tu bien juste à Montréal où on peut voir des affaires de même? » Puis, en parlant du salon de massage qui partage son local avec la garderie. Puis je me demandais, est-ce que Montréal a certains traits spécifiques qui en font une bonne ville de romans policiers? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cette ville-là? Est-ce que la ville a un discours particulier?
Je pense que oui, mais c'est-à-dire, en fait, je pense que toutes les grandes villes se situent un peu dans ce registre-là. Là, maintenant, Montréal, bon, le roman parle pas vraiment de ça, mais Montréal, quand on fait des petites recherches sur l'histoire de la mafia, donc Montréal a toujours servi de plaque tournante de plein d'affaires pour pour les mafias américaines, que ce soit du trafic d'alcool durant la prohibition, de drogue, de bébés.
De bébés?
Ah ben oui, absolument, parce que quand les femmes, les bonnes québécoises blanches tombaient enceintes hors mariage, ben on achetait leurs bébés finalement. Le plateau était couvert de fabriques à bébés, ils appelaient ça des fabriques à bébés. Alors quand une femme, là, quand ça commençait à apparaître, on allait la trouver, là, puis on lui disait... viens avec nous, là, on va te donner de l'argent, on va te loger, on va te nourrir, puis il n'y a personne qui va le savoir que tu as accouché finalement. Puis ça, ben, c'était pour fournir certains pays européens, les États-Unis, le reste du Canada en bébés blancs. parce qu'évidemment, il n'était pas question d'adopter, en fait, ni des bébés non blancs, ni des bébés qui avaient vraiment besoin de, entre autres, des jeunes enfants qui auraient eu besoin d'une famille aussi. Bref, mais de toute façon, ces femmes-là, elles étaient enceintes. Puis, bon, alors, il y a eu ça aussi. Puis, bon, la mafia, c'était aussi beaucoup l'Église catholique, mais c'est un peu la même chose, finalement. Donc, Montréal, puis encore aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu parler que pendant la fin de semaine du Grand Prix, les centres jeunesse se vident de leurs adolescentes, parce qu'évidemment, leur pimp leur trouve du travail. Donc, puis si vous allez aux États-Unis, ben Montréal, c'est une ville hot. Là. Il y a des bars de danseuses, il y a des putes. Il y avait un truc là récemment, là, à Montréal, tu peux te commander une pute comme une pizza. Là, on te dit comment tu as vu, les cheveux de quelle couleur, les boules de quelle grosseur, etc. Puis tu commandes. T'as... Bon, fait qu'évidemment, il y a tout un... Puis, il y a ça. Donc, sur un plan théorique, il y a ça. Maintenant, moi, je vis ici, puis quand on m'a proposé d'écrire un roman noir, ben j'avais envie qu'il se passe ici, puis ça s'est fait dans cette optique-là. Mais comme je disais, j'ai l'impression que, sans doute, Montréal est plus fertile qu'Ottawa, là, pour ce genre de choses-là, mais en même temps, je suis sûr qu'à Ottawa, ça doit pas être drôle tout le temps.
Festival de la tulipe. Personne ne sait qui c'est qui est en arrière de ça. Donc, ton enquêteur, Gilles, a vraiment une relation particulière avec Montréal. C'est-à-dire qu'il vient à Montréal, il s'en est exilé, puis il est vraiment pas content d'être revenu.
Ouais.
Il est revenu dans des circonstances, en tout cas, qui restent nébuleuses dans le roman. Donc, son espèce de relation amour-haine plus haine qu'amour avec Montréal lui donne vraiment une espèce de encore une fois, cette question-là du point de vue, c'est-à-dire un point de vue vraiment particulier, en tout cas, sur la ville. C'est-à-dire qu'il est à la fois à l'aise dans les rues, mais il y a à la fois un regard neuf, en tout cas, sur ce qui il reste surpris, en tout cas, par la ville. Il y a des réflexions sur le fait que Montréal, c'est une ville qui se marche pas, par exemple. Mm-hmm. Donc, il y a une espèce de distance, en tout cas, avec la ville. Qu'est-ce que ça change, finalement? Est-ce que tu as l'impression que ça change quelque chose dans son travail d'enquêteur? Qu'est-ce que ça lui donne comme perspective? Qu'est-ce que ça amène, finalement, au roman? Qu'est-ce que ça amène à l'enquête?
Je pense que là-dedans, il y avait un désir aussi de créer un personnage singulier, là, encore une fois, c'est-à-dire de lui donner des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement celles du héros, bien que ce soit pas nécessairement un mot qui s'applique à ce personnage-là, donc du héros de roman noir. Comme tu le disais tout à l'heure, Gilles, il existait dans les deux romans précédents, Nina puis l'enterrement de la sardine. Et puis, encore une fois, quand j'ai décidé d'écrire ce roman-là, j'aimais assez l'idée de récupérer ce personnage-là, mais bon, ce personnage-là, il habitait à Lisbonne. Alors là, je me suis dit, bon, ben OK, je vais le faire revenir à Montréal. Là, en même temps, ça me tentait pas de tomber dans une backstory infiniment compliquée sur les circonstances de sa venue à Montréal. Je me suis même dit que ça pourrait faire l'objet d'un autre roman à un moment donné. Bon, évidemment, la question se pose, c'est-à-dire, il y a tout un paquet de raisons quand quelqu'un a vécu à l'étranger pendant 20 ans pour retourner dans son pays, mais bon... Ce qui m'est venu à l'esprit en tout premier lieu, c'était le fait qu'il avait été obligé de revenir ici pour des raisons peut-être interlopes, peut-être de visa, de résidence, je ne sais pas trop. Mais bref, qu'il avait été obligé de revenir ici. Dans le sermon au poisson, il y avait un personnage qui en avait marre de Montréal, qui en avait marre du Québec. Comme j'imagine, ça nous arrive à tous parfois. Là. Si jamais ça vous arrive jamais, vous viendrez me voir, je donnerai une coupe de cul. Qui décidait de... Mais je pense qu'en même temps, il y a quelque chose dans mon caractère là-dedans. Là. C'est-à-dire que je suis attiré par l'altérité, je suis attiré par ce qui est différent. Le sermon au poisson, ben, en fait, tous les romans portugais, ils portaient la marque de ça. C'est-à-dire de comment moi je me sentais quand j'étais là-bas. Donc, je, je, je connais très bien Lisbonne, je parle bien la langue, c'est chez moi puis c'est pas chez moi en même temps. Puis ça m'apporte beaucoup. Puis bon, il y a une seule place au monde où j'ai l'impression de comprendre tout ce qui se passe, c'est-à-dire de comprendre tous les codes quand quelqu'un me parle, quand c'est le Québec. Quand je suis à l'extérieur, à l'étranger, ben là, il y a autre chose qui se passe, puis qui est justement dans... qui tient souvent de l'enquête. Bon, une situation qui m'est arrivée, que je raconte tout le temps, c'est... À un moment donné, on était dans un... avec une amie, on était dans un bar, puis à un moment donné, il y avait des gens qui étaient là, puis qui sont mis à s'engueuler, puis à se crier dessus, puis un bonhomme qui s'est levé, puis qui a tapé sur la table, machin. Puis moi, c'était dans les premières années que j'y allais, puis je comprenais pas ce qu'il disait. Ou, je comprenais des mots par-ci par-là, mais je comprenais pas la teneur de ce qu'il disait précisément. Et puis à un moment donné, il était de dos à moi, fait que je voyais pas ce qui se passait derrière. À un moment donné, il s'est rassis, puis il a repris son jeu de cartes, puis on continue à rien. Fait que moi, je m'imaginais une histoire de tu sais, je m'imaginais qu'il allait pogner une bouteille, puis que la bagarre allait éclater, tout ça, puis il y avait absolument rien de ça. Il y a cette espèce de c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans le voyage, puis quand on voyage pas comme à Disney World, là, c'est-à-dire quand on se force un peu pour comprendre comment les gens pensent, comment les gens vivent, comment les gens parlent. On se retrouve souvent dans ce genre de situation-là où on se dit, là, merde, je devrais comprendre ce qui se passe, puis je comprends pas. Puis j'avais envie de... Donc, j'avais fait ça dans les romans portugais avec différents personnages, puis là, j'avais envie de faire ça. Donc, je trouvais que... En fait, plutôt, je trouvais que l'idée de rapatrier Gilles me permettait de faire ça. Donc, de le placer lui aussi dans un endroit qu'il connaît, mais dans lequel il est décalé, puis qu'il y a des trucs qu'il comprend plus ou moins bien, puis des espèces de lieux communs desquels il n'est pas trop au courant. J'aime beaucoup jouer sur le malentendu. Les gens se parlent, comprennent pas ce qu'ils se disent, tout ça. Donc ça me donnait de la marge pour m'adonner à ce genre de jeu-là.
Ouais, parce que c'est ce que j'essayais de dire par cette question du point de vue, c'est-à-dire qu'il comprend pas nécessairement les codes. Quand il pose des questions pour mener son enquête, il pose des questions sur les moteurs, tandis qu'il n'a vraiment pas d'affaire à poser des questions sur les moteurs. Il va toujours de but en blanc, puis il ne gêne pas. T'as tout le monde, les gens répondent à ces questions, mais ils ont toujours l'air vraiment surpris de la façon dont il a. T'as toujours l'impression que ça se fait pas vraiment de la façon dont il agit avec les gens. Puis il y a toujours une espèce de décalage avec justement la façon dont on a à Montréal d'aborder certaines thématiques. En tout cas, certains. Comment je dirais? Certaines choses.
Oui.
Parfait. Donc, Montréal, c'est ça. Elle prend une grande place, et puis elle est vraiment très, très matérielle. Hein, on la reconnaît. C'est-à-dire, Montréal, on parlait tantôt, Tony Tomassi, il s'appelle pas un autre nom à consonance italienne, mais il s'appelle Tony Tomassi.
Mais j'ai changé les noms de. Le Miami Vice, il s'appelle Friends.
Friends,
j'ai donné un autre nom de télésérie à mes poches. Ça marchait en même temps, tu sais.
Ah, c'est bon! Oui, mais tu sais, le Ultraman en face, bref, ils sont quand même pas difficiles à reconnaître. Ouais. Donc, puis il y a même Anarcho Panda qui fait une apparition brève mais remarquée dans le roman. Donc, quelle importance ça avait, cette espèce de réalisme-là, mais réalisme palpable, tangible. C'est-à-dire, la ville, on la reconnaît, on la sent, c'est Montréal. C'est pas un Montréal de roman, c'est Montréal.
Ben là encore, je pense qu'il y a une espèce d'instinct. Là. Moi, j'aime assez ce sentiment-là de me promener dans des lieux que je connais. C'est-à-dire, évidemment, quand je lis des romans, donc de me retrouver dans des lieux que je connais, des fois bien, des fois pas bien, puis de confronter ce que je lis à mes souvenirs. Pour moi, c'est intéressant d'essayer de pas inventer des noms de rue, par exemple, de pas inventer un, une fausse petite patrie. Puis, ouais. Bon, après, évidemment, quand on y va, ben, on se rend évidemment compte que Excellence Poulet n'existe pas, puis il n'y a pas de rôtisserie dans la configuration que j'évoque. Là. En fait, que la configuration que j'évoque n'existe pas de manière parfaitement analogue. Par ailleurs, évidemment, je pense que ça se situe dans une espèce de désir quand même de... Bon, c'est une histoire un peu loufoque, évidemment, là, on s'en cachera pas, mais il y a quand même une espèce de désir de vraisemblance minimale là, qui je trouve est une bonne accroche, là, au sens où... je pense que notamment, il y avait des libraires qui me disaient que... Puis bon, évidemment, je faisais pas ça dans une optique marketing, commerciale, et loin de là, mais... Ben, loin de là, en tout cas. Ça faisait pas partie de mes préoccupations, là. Ce que je veux dire, c'est que il semblerait que les lecteurs sont intéressés par le fait que ça se passe à Montréal, donc dans leur ville, puis donc j'imagine que s'ils sont capables de reconnaître les lieux, ben, ça peut présenter un intérêt pour eux. Bon, en même temps, comme je disais, moi, ça ne faisait pas partie de mes préoccupations, mais pour moi, c'était intéressant d'essayer de repérer ces lieux-là, de les transposer, puis ça me semblait aller un peu de soi, donc c'est pas vraiment, ça ne faisait pas encore partie d'une réflexion. Là. C'est mon quartier, c'est des lieux où je vis, où je passe souvent. Puis c'est intéressant de les redécouvrir aussi, parce que bon, évidemment, si j'ai affaire à... Moi, j'habite près du métro Beaubien. Puis si j'ai affaire à l'est de Papineau... J'aime ça dire ça, l'est de Papineau. Ça, je trouve que ça délimite bien les choses. Puis quand j'ai affaire à l'est de Papineau, ben j'ai tendance plutôt à descendre vers le sud, puis ensuite de ça, aller vers l'est. Mais là j'allais directement vers l'est, puis là, je descendais Papineau. Puis Papineau, entre Bélanger puis Rosemont, c'est quand même quelque chose. Hein? Puis ce qui est fascinant là-dedans, justement, c'est que c'est des choses qui... C'est-à-dire, c'est des... Probablement que si je n'y étais pas intéressé pour écrire quelque chose, je l'aurais pas fait, cette espèce de... Là, j'ai vu des choses fantastiques sur Papineau. J'avais l'impression d'être ailleurs. J'avais l'impression d'être dans une autre ville, dans un autre pays, ce qui me fait toujours du bien. Puis bref... J'avais envie de reproduire ça dans une certaine mesure, donc ça s'est fait un peu naturellement.
Oh, ok, parfait. Je pense que c'est à peu près le temps qu'on avait. Ça ressemble à ça, oui. Oui, ok, on fait une... Ouh, je ne savais pas qu'on faisait une période de questions, désolé. Ben merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, merci à toi, de
discuter de Roman Droit. On prend quelques questions, ouais, comme ça. Ouais, parfait. S'il y a des gens qui ont des questions pour Patrice.
Ou pour Jean-François.
Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, sinon je vais pointer des gens.
Faites penser à mes étudiants.
Bon, oui, Kevin, bravo.
Le roman est écrit dans une langue très orale. Je me demandais comment le travail de l'oralité s'était fait avec les différents personnages, avec les par rapport à la ville aussi. Puis dans le corps du texte, il y a des espèces de dialogues qui coulent aussi. Quel rythme tu veux travailler?
Ben en fait, j'ai toujours un peu fait ça. Là. J'aime ça travailler sur le rythme. Je trouve que encore une fois, c'est quelque chose d'assez instinctif. Je trouvais que cette forme-là là, d'introduction de dialogue permet... je parlais tout à l'heure des malentendus, des scènes de confusion et tout ça. Ben, ça permet ça parce que c'est un peu comme des voix qu'on entend et qu'on arrive mal à démêler. Donc, ça me permettait de jouer avec ça. Moi, quand les gens me demandent ça, ma réponse un peu... canonique, c'est ça que je fais. je sais pas, je me sens à l'aise là-dedans, ça me vient comme ça. Je pense que s'il fallait que je me remette à écrire deux points à la ligne quadratin, je serais un peu des. Je ne saurais même pas quel quadratin utiliser d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, en tout cas. Donc fait que c'est ça, moi j'ai du plaisir à le faire comme ça. Maintenant, le travail de l'oralité, ça c'était vraiment le fun parce qu'il y avait toujours. Dans les romans précédents, comme ça se passait à Lisbonne, moi, en fait, je voulais au départ que Gilles soit, sans être un crétin, il s'exprime de manière très... disons qu'il soit pas doué pour s'exprimer, qu'il soit pas doué pour la langue. Et là, le faire parler dans une espèce de Québécois hyper réaliste, de pacotille. Je pense, par exemple, je sais pas si vous avez déjà... Il y a une pièce extraordinaire d'Olivier Kemet qui s'appelle Bacchanal, qui a été créée il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être moins que ça, peut-être 7-8 ans. Puis c'est des serveuses dans un c'est créé en référence directe à Françoise Durocher, Waitrice, qui est un film qui a été, je ne me rappelle plus, le scénarisé, réalisé par Tremblay. Voyons, j'ai un trou, là, Brassard, voilà. Et donc, c'est des serveuses. Puis bon, évidemment, comme le fait souvent Tremblay, ben là, c'est une uniforme. Puis tu sais, ils déforment les mots et tout ça. Fait que je voulais faire parler Gilles comme ça, mais ça jurait parce que si c'était Troquet, ben Lisbonne. Puis là, quand il y avait des gens, des gens qui étaient des petits bums, des voyous à Lisbonne, ben là, si je les faisais parler en... Parce que des fois, j'écrivais en portugais, mais là, il fallait traduire. Là, si je traduisais en gros keb, ben... Tu sais, c'est un Lisboète d'origine capverdienne, puis il parle en gros keb, ça marche pas. Fait que, tu sais, c'était compliqué, tout ça. Fait que j'avais l'impression que je polissais beaucoup la langue que j'aurais aimé donner à Gilles. Puis là quand j'ai écrit Excellence Poulet, là, c'est le problème inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que là je pouvais pas le faire parler comme j'aurais voulu au départ non plus, parce qu'il y avait déjà une espèce de il y avait déjà une langue là, qui s'était créée dans les deux romans précédents, puis je voulais pas que ça jure trop. Fait que là, finalement, Gilles, c'est un peu celui qui s'exprime le mieux dans tous les personnages. Puis là, je me suis lâché lousse dans ce genre d'expression-là, là, comme lâché lousse. T'sais, où là justement... Fait que là, il y avait... En tout cas, là, comme à chaque fois qu'on écrit, qu'on essaie de reproduire la réalité, il y avait une espèce de code à créer, donc... qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, mais ça, c'était le fun, parce que là, c'était quelque chose de très, très naturel, c'était pas un rythme inventé, c'était mon rythme à moi, c'était comment je les entendais parler dans ma tête, donc c'était chouette à faire. J'avais l'impression que pour en revenir à ce que tu disais, l'introduction des dialogues dans le cadre de la narration, mais moi, pour moi, c'était encore plus intéressant de le faire comme ça, justement parce qu'il y avait les différents niveaux de langue des différents personnages qui, évidemment, se court-circuitent un peu. Puis il y a le niveau de langue du narrateur qui est un petit peu plus élevé, même s'il va recourir, lui aussi, à l'oralité une fois de temps en temps. Mais donc, il y avait tous ces niveaux-là qui se mélangeaient à l'intérieur d'une même phrase. Puis donc, ce travail-là, pour moi, était très fécond. Puis sur le plan créatif, c'était la partie la plus intéressante pour moi, là. Merci, Kevin.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des commentaires, des insultes?
C'est comme ça, c'est comme
je pense
ça.
Que c'est pas grave.
On pourrait, c'est pas très grave. On pourra en discuter de toute façon un peu en rangeant les chaises.
Merci encore. Merci beaucoup à la librairie Port de Tête. Merci beaucoup à Patrice Lessard pour cet entretien. Merci au Krilk. Est-ce que j'oublie quelqu'un?
Merci de rien.
Et puis merci à vous. Merci énormément. Et puis on se revoit à la prochaine rencontre du Krilk. Merci.